Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 novembre et je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission autour de l'actualité en Mayenne, actualité au sens large évidemment, puisqu'aujourd'hui on va parler d'une association qui s'implante, enfin en tout cas qui a une nouvelle antenne ici à Laval, Parrain par Mille. Elle permet justement de créer des liens de parrains ou de marraines avec des enfants ou des jeunes isolés. Vous entendrez comment ça fonctionne. Et puis on va aussi retrouver notre chronique habituelle, cycle de reportages autour du penser local dans la région, proposé aujourd'hui par Neptune FM. Et oui, on vous offre un petit voyage du côté de l'Île-Dieu avec la ferme du Coq à l'Âne. Et on continue évidemment notre feuilleton avec la légumerie 53 à Laval, avec aujourd'hui un focus sur les clients de la légumerie et justement l'évolution un petit peu au fil des années, puisque la légumerie a été créée il y a 6 ans. D'abord, on fait un rapide point sur l'actualité. Dès lundi, le masque ne sera plus obligatoire pour les écoliers en Mayenne, à l'inverse des autres départements de la région où le masque redevient là obligatoire. Mais en Mayenne, le taux d'incidence est inférieur à 50 cas de Covid pour 100 000 habitants. Au total, 39 départements en France sont concernés par cette nouvelle obligation pour les écoliers. Une nouvelle visite ministérielle en Mayenne aujourd'hui, celle d'Olivier Dussopt, ministre délégué aux comptes publics. Il rencontre des agents des finances publiques arrivés en Mayenne récemment et visitera cet après-midi l'entreprise STTM à Changé pour évoquer notamment le plan France Relance dont est bénéficiaire cette entreprise. Chef d'entreprise, justement, c'est le moment d'élire vos représentants à la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de la Mayenne. Vous avez jusqu'au 9 novembre pour élire 36 dirigeants qui auront un mandat de 5 ans, avec notamment une liste menée par le sortant Éric Huneau. Vous pouvez voter sur jevoteCCI.fr. Et puis un tirage au sort clément pour les tangos en Coupe de France. On parle football pour le 7e tour. Le Stade Lavallois affrontera Luçon, une équipe qui évolue en régional, c'est-à-dire 4 divisions au-dessous d'eux, un match qui devrait donc être facile et prévu en Vendée le 13 ou le 14 novembre prochain. On fait une petite pause en musique juste avant de parler justement de cette association Parrain pour Mille qui vous permet de parrainer, comme son nom l'indique, des enfants ou des jeunes isolés. On écoute tout de suite Bully avec I Remember. L'énergie de Bully avec son titre I Remember dans l'AJT du local. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio et donc on va parler de cette nouvelle antenne de l'association Parrain par Mille en Mayenne, donc créée il y a quelques mois. L'association Parrain pour Mille, donc, qui propose à des personnes de parrainer des enfants ou des jeunes isolés. Une association qui s'est créée il y a déjà une trentaine d'années, en 1990 à Paris, puis qui s'est développée et professionnalisée et notamment en région. C'est donc la 7e antenne qui ouvre ici en Mayenne, et on va en parler avec la salariée qui est responsable de cette antenne et qui va nous expliquer un petit peu ce dispositif et quels sont ses intérêts. On l'écoute.
Je suis Suzanne Aubrard-Prigent, je suis responsable de l'antenne Par un par mille en Mayenne, qui vient tout juste de s'implanter en fait en septembre. Voilà, donc Par un par mille, c'est une association nationale en fait qui a 7 antennes en France. Et donc la dernière antenne qui a été créée est en Mayenne, avec le soutien du conseil départemental.
Est-ce qu'on peut justement présenter cette association Par un par mille, qui propose justement à des personnes, quelles qu'elles soient, de parrainer des enfants isolés?
Oui, tout à fait. Alors en fait, l'association a pour mission de pouvoir mettre en relation, de pouvoir en fait suivre, accompagner des parrainages en fait entre un enfant, un jeune qui est isolé, qui est en difficulté ou qui a été fragilisé en fait par son parcours, et un adulte bienveillant qui va devenir une personne référente, une personne en fait qui sur qui l'enfant, le jeune va pouvoir compter. Donc il s'agit vraiment de construire une relation qui est durable, solide, de confiance entre le parrain, la marraine et son filleul, pour justement favoriser en fait son développement, son bien-être, et que il puisse également s'épanouir avec cette relation en fait, qui est une relation un pour un, justement pour cet enfant ou ce jeune.
Et quand on parle justement d'enfants ou de jeunes isolés, on pense à qui en particulier ?
Alors, Par un par mille accompagne des parrainages en fait pour des enfants et des jeunes qui sont soit en protection de l'enfance, donc qui ont soit une mesure éducative ou soit une mesure de placement. On accompagne aussi des enfants, des jeunes qui sont dans leur famille sans mesure éducative. Ce sont souvent des familles qui sont monoparentales. Et du coup, on vient accompagner, renforcer en tout cas la parentalité avec ce parrainage, justement.
Qu'est-ce que ça apporte justement, puisque là, donc, l'association s'implante en Mayenne, mais vous avez déjà des années d'expérience, que ce soit dans d'autres départements, notamment dans le Maine-et-Loire ou ailleurs en France. Qu'est-ce que ça apporte justement à cet enfant, même quand parfois, vous le disiez, il a déjà une famille d'accueil en fait. Qu'est-ce que ça apporte en plus ?
Alors en fait, ce que le parrainage apporte, c'est une relation, on va dire, individuelle. Alors je pense par exemple aux enfants qui sont placés. C'est sortir du collectif, c'est vraiment avoir une relation, comme je disais tout à l'heure, en fait, être dans du un pour un. Et c'est favoriser en fait des sorties, une ouverture culturelle, une ouverture sociale, de changer d'environnement, découvrir d'autres horizons en réalité, et puis avoir le soutien d'un parrain, d'une marraine en fait dans les projets, dans les démarches. Et puis pour ce qui est en fait pour les plus grands, parce qu'en fait on a deux formats de parrainage. On a le parrainage socio-culturel qui s'adresse plutôt aux enfants entre 3 et 14 ans. Donc là, on est vraiment sur de l'ouverture culturelle, l'ouverture sociale.
Donc ça peut être quoi, par exemple ?
Alors, c'est par exemple une sortie au parc, c'est par exemple également faire une recette de cuisine avec son parrain, sa marraine. Ce sont vraiment des choses très simples. En fait, l'activité est vraiment vectrice pour en fait tisser un lien, une relation, en fait, avec le parrain ou la marraine. Alors quand il s'agit en fait des plus grands, donc entre 15 et 21 ans, on parle de parrainage plutôt socio-professionnel. Donc c'est tout ce que j'ai dit avant, en fait on est dans dans des activités socio-culturelles, mais ce qu'on ajoute, le volet qu'on ajoute en plus, c'est le volet un petit peu d'insertion, l'accompagnement à l'insertion, puisque c'est un âge où les jeunes se questionnent également sur leur avenir, sur leurs études, sur peut-être un futur emploi. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir que le parrain et la marraine en fait soient présents aussi près de lui pour, par exemple, rechercher un stage, faire une lettre de motivation, un CV. Voilà, en plus de toutes les autres activités qui peuvent être proposées également aux jeunes pour créer ce lien, être en lien avec lui et pouvoir vraiment toujours construire cette relation.
Puisque c'est une relation, vous le disiez tout à l'heure, qui se construit vraiment sur le long terme. Comment ça se passe justement entre le début où on vous contacte pour dire « j'aimerais bien être parrain ou marraine » Alors, comment ça se passe si on est intéressé ?
Alors tout à fait, en fait, pour une personne qui serait intéressée par justement parrainer un enfant, donc nous, on est contactés, on envoie une fiche d'information en fait à la personne qui est, au bénévole qui est intéressé, et puis on a un échange téléphonique en fait après sur le projet de parrainage. On reçoit ensuite la personne en entretien, donc avec une personne de l'association, et puis il y a un deuxième rendez-vous qui se réalise aussi en lien en fait avec une psychologue ou un psychologue de l'association. Donc voilà, on a également une petite formation qu'on propose après validation en fait de la candidature du parrain ou de la marraine, une plateforme en ligne du coup où les parrains marraines peuvent en fait se former. Alors c'est une mini formation, mais du coup ça
permet quoi finalement cette formation?
Alors ça permet d'en apprendre un petit peu plus en fait sur l'environnement du filleul. Donc si c'est un enfant qui est qui est une mesure éducative, expliquer un petit peu plus ce que c'est une mesure éducative, expliquer l'environnement d'un enfant placé également par exemple. Donc c'est apporter un petit peu un complément d'information sur le contexte de l'enfant en fait de manière générale.
Puisque on se doute que c'est peut-être un public qui n'est pas toujours évident en tout cas, ou que certains peuvent avoir déjà, même très jeunes, vécu des choses pas faciles. Est-ce que c'est pour ça aussi que cette formation est importante et l'entretien aussi avec un ou une psychologue?
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, pour le département de la Mayenne, effectivement, on est vraiment en lien avec la direction de la protection de l'enfance. Donc ce sont des enfants qui... Les enfants qui seront parrainés sont des enfants qui ont une mesure éducative ou une mesure de placement. Donc effectivement, on vient également accompagner, c'est ça notre rôle également en tant qu'association, c'est de venir accompagner le parrainage et puis répondre également aux questions des parrains marraines sur des difficultés qu'ils pourraient rencontrer effectivement. Donc cette formation sert à ça et puis nous en fait on assure un suivi également surtout la première année. On prend contact avec le parrain et la marraine, on prend des nouvelles du parrainage tous les deux mois. Et donc l'objectif aussi c'est de pouvoir faire des formations en présentiel, de pouvoir accompagner vraiment ces parrainages, identifier des problématiques précises et puis pouvoir former, pouvoir accompagner justement l'ensemble de ces parrains et marraines qui se portent candidats.
Est-ce que vous avez une idée? Donc là, on l'a dit, en Mayenne, c'est vraiment le tout début. Donc pour l'instant, c'est difficile de donner des chiffres. Mais en tout cas, peut-être sur la région ou même partout en France, combien il y a de duos parrain, marraine et parrainé du coup, qui ont déjà été créés?
Alors en 2020, il y avait un peu plus de 800 parrainages accompagnés. Voilà, sur l'antenne, pour vous donner un exemple, sur l'antenne d'Angers, du Maine-et-Loire, on est à peu près à 70 parrainages accompagnés également. On voit qu'il y a un développement en fait du parrainage et c'est vrai qu'on est dans une dynamique en fait effectivement de développement aussi. On a pas mal de parrains marraines en fait qui nous contactent aussi. Donc voilà en fait quand on a les enfants qui sont à parrainer et puis d'un autre côté les parrains marraines, on essaie effectivement de former des binômes qui soient en accord l'un avec l'autre, parce que l'objectif c'est vraiment de pouvoir avoir des entretiens avec les enfants, avec les jeunes, de pouvoir avoir des entretiens avec les parrains marraines et de pouvoir réunir des personnes en fait avec des centres d'intérêt communs. C'est tout ça qui est étudié aussi en amont en fait.
Puisque c'est du bénévolat évidemment pour les parrains marraines, mais j'imagine aussi pour les enfants, c'est-à-dire que c'est eux qui expriment en tout cas cette volonté d'être parrainés.
Alors effectivement, nous on est en relation avec les intervenants professionnels. Et du coup, en fait, on travaille vraiment de pair avec eux. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un travail complémentaire avec eux. Et donc, on a des entretiens donc, avec les référents socio-éducatifs. Et puis, on prend également après l'enfant en entretien pour apprendre à mieux le connaître et pour s'assurer également qu'il est vraiment partie prenante en fait, du projet de parrainage. Ça, c'est très important pour nous, forcément, d'avoir également son retour dessus et qu'il soit vraiment partie prenante du projet, tout simplement.
Et vous disiez donc que vous, association Parrain pour 1000, vous faisiez tous les deux mois des rendez-vous pour voir si ça se passait bien, des points en tout cas. Oui. Après, est-ce qu'il y a un engagement de la part des parrains ou marraines pour justement voir l'enfant ou le jeune, je dis n'importe quoi, peut-être au moins une fois par semaine ou une fois par mois, ou c'est vraiment très souple en fonction des disponibilités de chacun?
Alors en fait, ce qu'on propose au tout départ, parce que c'est souvent la question qui nous est posée, effectivement, quel est l'engagement? Alors l'engagement, effectivement, c'est qu'on demande aux parrains, aux marraines, en fait, de s'engager à raison de 6 heures par mois, donc à peu près 2 demi-journées, en fait, par mois, sur une durée d'un an. Au bout d'un an, en fait, on se remet tous autour d'une table, en fait, toutes les parties prenantes du projet de parrainage se remettent autour d'une table, et on fait le point. Et puis, si tout se passe bien, on continue. S'il y a besoin, en fait, de réajuster certaines choses, eh bien, on les réajuste, on est présent, dans la accompagnement de ce parrainage. Et puis l'objectif c'est quand même qu'il y ait une pérennité en fait dans cette relation. On cherche vraiment à construire une relation avec l'enfant et que ce soit vraiment le parrain marraine soit une personne ressource qui soit un peu le fil rouge de son parcours en fait. Donc c'est ce que l'on cherche, mais l'engagement de départ effectivement c'est 6 heures par mois et puis une année en fait pour démarrer et puis après on en rediscute.
Vous disiez aussi travailler forcément en relation avec les référents socio-éducatifs des enfants. Eux aussi vous donnent leur retour forcément, j'imagine, sur peut-être ce dispositif et ce que ça change ou peut-être ce que ça apporte aux enfants. Ou est-ce que vous-même, vous êtes en relation aussi régulière avec les enfants pour avoir un peu ce retour?
Alors effectivement, oui. Alors on est très en lien, comme je le disais tout à l'heure, on est très en lien avec les référents socio-éducatifs. Ils sont vraiment un maillon essentiel, en fait, dans la réussite du projet de parrainage également. Et puis, oui, on fait souvent... Alors on fait des interviews régulièrement aussi hein, pour sonder un petit peu l'impact du dispositif, des parrainages que l'on met en place. Pour vous donner en fait un exemple, dernièrement justement, alors sur l'antenne d'Angers, en fait, du Maine-et-Loire, on a interviewé le premier binôme en fait qui s'est formé sur Angers. Du coup, avec un jeune qui avait été parrainé à l'âge de 16 ans et donc qui a aujourd'hui 23 ans. Et en fait, qui nous disait que le parrainage, il a été dans une période, il bénéficiait d'une mesure éducative. Et en fait, son éducateur un jour lui a parlé de parrain par mille et puis lui a proposé en fait d'être parrainé. Donc un parrainage s'est constitué, s'est mis en place. Et puis sa marraine en fait est toujours, hein, ils sont toujours en contact aujourd'hui. Et ce qu'il nous disait en fait, c'est que à une période vraiment très compliquée de sa vie, il a vraiment reçu un soutien et que en fait il a également gagner en confiance en lui, c'est vraiment ce qu'il nous disait. Et pour nous, c'est vrai que ça, c'est vraiment un indicateur très important parce que quand on renforce l'estime de soi, quand on gagne en confiance en soi, il y a beaucoup de choses qui sont gagnées après pour la vie d'un jeune, d'un enfant. Et voilà, en fait, aujourd'hui, il est en totale autonomie, il a 23 ans et du coup, il a un travail. Et voilà, il est vraiment... il est lancé, en tout cas, dans la vie avec une confiance en soi et ça, c'est vraiment très important.
Donc c'est entre autres ce que permet d'apporter ce dispositif et cet accompagnement des parrains-marraines, même si ça peut sembler, vous le disiez parfois anodin, même juste faire un gâteau avec son parrain-marraine ou faire une sortie, ça renforce aussi cette confiance en soi et cette idée de sortir peut-être d'un milieu pas toujours évident.
C'est ça, c'est sortir d'un environnement, d'un contexte, s'ouvrir vraiment sur d'autres horizons en fait. C'était le cas, par exemple pour ce jeune dont je parlais, c'est de pouvoir avoir vécu des moments en fait en famille aussi avec sa marraine, avoir vécu des moments d'activité, de jouer au foot, d'aller voir un match de foot, des choses vraiment toutes simples de la vie quotidienne en fait, mais qui du coup lui permet en fait de découvrir un autre environnement, découvrir d'autres personnes, s'ouvrir vraiment sur autre chose.
Donc c'est bien en tout cas l'objectif de ces parrainages. Est-ce qu'il y a, donc là on a parlé aussi de différents aspects de ce dispositif de parrainage, est-ce qu'il y a des critères précis, alors précis j'imagine que non, mais peut-être quelques critères quand même, pour devenir parrain ou marraine ?
Oui, alors en fait, on étudie forcément, toutes les demandes sont étudiées, hein, en fait, toutes les demandes qui nous parviennent sont étudiées. La seule chose que je dirais, en fait, c'est qu'on demande à la personne d'être dans une stabilité, en fait, c'est-à-dire que, par exemple, des personnes étudiantes qui voudraient parrainer, on refuse plutôt ce genre de candidature, parce qu'on sait qu'un jeune, il va peut-être partir ailleurs pour ses études après, il va trouver un emploi dans une autre ville. Donc on recherche plutôt des personnes qui sont stabilisées en fait déjà et qui pour les prochaines années, il n'y aura pas un changement en fait de vie très important de manière à pouvoir faire perdurer ce parrainage.
Donc ça, c'est vraiment le critère le plus important.
Oui, parce que, comme je vous le disais, en fait, c'est vrai que c'est la régularité de la relation, la pérennité de la relation qui nous importe aussi. Donc après, c'est surtout cette stabilité qu'on recherche également dans la candidature du parrain-marraine. Et puis après, ce sont des échanges. On voit en discutant, en fait, lors de l'entretien, en fait, si le projet de parrainage de la personne correspond à notre projet associatif. Et puis, si c'est pas le cas, on réoriente la personne vers un autre dispositif, une autre association, qui pourra peut-être mieux répondre, en fait, aux attentes de la personne que notre association.
Donc on l'a compris, de toute façon il y a un entretien, même plusieurs entretiens,
oui,
avant, donc il y a tout cet accompagnement aussi du futur bénévole avant même de commencer ce parrainage. Si justement on est intéressé, la toute première étape, comment est-ce qu'on peut vous contacter?
Alors vous pouvez nous contacter déjà sur notre mail en fait, 53@ppm-asso.org. Donc nous envoyer un petit mot et puis on a également notre site internet www.ppm-asso.org où vous avez beaucoup d'informations en fait sur l'association, sur ce que l'on fait, comment on le fait. Et puis après vous pouvez prendre contact avec nous, venir nous voir également à l'antenne. On est disponible en tout cas pour vous répondre.
I need is 5 minutes. If you can seek the side, all I need is 5 minutes. If you read between the lines, one for the eyes, eh? One for the voice, eh? One for the touch, one for the soft, and then the kisses. All I need is 5 minutes. 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 Start the ignition. All I need is your look. Hang my imagination. All I need is your view to picture your position. We could get away, ride horses, sail on the bay, drink from the source. And then the kisses following courses. And again kisses following causes. I can burn a fly fan. One hit of a cigarette. Mistakes don't regret. All I need is 5 minutes. I can burn a side effect. I can ride on the rockets. The love don't spend. All I need is 5 minutes. Ride on the rockets, the love you don't spare. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes.
Minutes du groupe Her, évidemment une version qui date de 2017 dans l'agité du local. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio. Et c'est l'heure de notre chronique Pensée locale en lien avec les radios associatives des Pays de la Loire, de la FRAP. Aujourd'hui, chronique réalisée par Neptune FM à L'Île-Dieu. Laurent Tarot s'est rendu à la ferme du Coq à l'Âne qui mêle à la fois un élevage de poulets fermiers et une ferme pédagogique à la rencontre de sa gérante Lionel Arnaud, qui nous fait découvrir ces animaux, son éthique et l'intérêt d'une production et d'une vente en local, puisque c'est le thème de cette série de reportages.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Actuellement sur l'Île-Dieu, une petite dizaine d'exploitations agricoles se partagent 50 des 3300 hectares de la surface totale de l'île, soit 3% du territoire au lieu de 1100 hectares en 1950. C'est en fin 2018 que Lionel Arnaud s'est lancé dans la vente et la production de poulets bio. La ferme du Coq à l'Âne, c'est aussi une ferme pédagogique.
La ferme du Coq à l'Âne, c'est parce que c'est les expressions de la vie de tous les jours, mais c'est aussi parce que j'ai plusieurs activités et c'est aussi que je suis passée de conseillère de vente à agricultrice.
D'ailleurs, comment tu es passée de conseillère de vente à agricultrice? Quel a été le déclic?
Le déclic, c'est que vendre du Roundup, ça me posait des problèmes de conscience. Donc voilà, je voulais vivre en étant en harmonie avec moi-même et tout un tas de choses de la vie. Et j'ai voulu choisir mon métier, choisir mon éthique. Et puis, c'était tout un cheminement en fait. C'est la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on va dire.
Élevage de poulet, tu fais tout de A à Z?
Je fais pas les poussins. Je fais venir mes poussins un jour. D'un couvoir, et je les élève pendant 3-4 mois, je les abats sur place, je les commercialise sur place.
Ces ventes de poulets se font sur place ou tu les vends ailleurs sur l'île-Dieu?
Je les vends que à la ferme. Voilà, les gens viennent comme ça, se rendent compte comment sont élevés les animaux, comment on travaille.
Comment que ça se passe pour les déchets?
Les fientes que font les poules, ça tu peux les mettre dans ton compost parce que c'est plein d'azote, c'est super bon pour le jardin. Ça, c'est mondialement connu. Pour l'élevage, comme c'est plus conséquent, et je les mets à composter chez un maraîcher bio.
Un maraîcher bio de l'île-Dieu ou du continent?
Non, de l'île-Dieu, on essaye de faire tout en circuit court quand même. Mais ce qu'ils font sur les parcours, ça se dissout tout seul. Que ce soit avec la pluie, avec le soleil qui est un désinfectant. La crotte sèche, elle se désagrège, donc elle disparaît toute seule.
La ferme du Coq à l'Âne, c'est une ferme pédagogique avec de nombreux animaux à découvrir.
Alors on a l'alpaga, Orage, qui lui est très connu sur l'île. On a les moutons, on a le cochon, donc un cochon nain, c'est pas un cochon pour manger. On a des oies, canards et quelques poules. Alors j'oubliais aussi que dans ma ferme, j'ai des chèvres, mais qui sont en éco-pâturage. Et on parlait tout à l'heure de l'âne et des poneys, donc que j'ai également, qui ne sont pas sur la ferme par manque de place.
Pensée locale, un enjeu de société.
Lionel Arnaud de la ferme du Coq à l'Âne propose également de la location de poules pondeuses.
Donc effectivement, je loue des poules à des particuliers. Donc je leur demande de s'équiper d'un poulailler, d'un petit enclos qui puisse pondre, se percher. Je fournis le grain parce que c'est des poules que je veux garder bio. Ils peuvent quand même leur donner leurs épluchures de légumes, de fruits. On enlève quand même, on se débarrasse de beaucoup de déchets. Mais pas de tous, ça ne remplace pas le composteur. Et ça permet d'avoir des œufs frais tous les jours, entre guillemets tous les jours, ça ne pond pas tous les jours une poule. Et puis, comme on disait, de faire baisser la poubelle de table.
Tu vends, on a bien compris, tes poules, mais par contre les œufs, est-ce que tu vends également?
Je vends les œufs, mais pas d'ici. En fait, là, on a les poulets, on a la ferme pédagogique, et mes poules pondeuses sont au verger patrimonial. Donc mes poules pondeuses sont au verger, j'ai 34 poules pondeuses là-bas qui nettoient le verger, donc c'est tout un ensemble de choses. Moi je m'en occupe, je ramasse les œufs et elle s'occupe du verger, en complément avec bien sûr les croqueurs de pommes et la mairie.
Est-ce que tu as des futures envies pour cette ferme ou la ferme pédagogique?
Je ne veux pas forcément faire plus de production de poulets, mais j'aimerais bien avoir plus d'animaux, j'aimerais bien avoir une compagne pour Orage. J'aimerais bien avoir d'autres animaux. Il y a des petites chèvres que je trouve sympas.
Lionel, Pour toi, l'expression « bête comme une poule » est-elle exacte ?
Bah absolument pas, en fait. Ça a une vie sociale, ça a un langage. Vous pouvez demander au coq qui voudrait m'échapper.
Merci Lionel.
Mais de rien, merci à vous d'être venu.
La ferme du coq à l'âne, c'est au 129 rue de Kerdousset, sur l'Île-Dieu. Laurent, Radio Neptune FM, l'Île-Dieu.
C'était « Pensée locale, un enjeu de société ». Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Et à réécouter sur notre site l'autreradio.fr, la prochaine chronique de ce cycle de reportage. Attention, on change un petit peu avec les jours fériés, ce sera lundi prochain. On continue en revanche notre feuilleton avec depuis mardi la légumerie 53 à Laval, une structure d'insertion qui s'occupe de découper des légumes crus pour les transformer prêts à cuisiner pour les restaurations collectives, notamment les cantines scolaires. Et parmi leurs clients, donc, il y a des cantines scolaires, mais pas seulement, selon la directrice Elisabeth De Vitton.
Alors on va travailler essentiellement avec les collectivités. Donc, bien évidemment, les collèges qui ont été à l'origine de ce projet, le conseil départemental, les lycées, les maisons de retraite, les hôpitaux. Et Maillon-Court, étant entreprise d'insertion, lui, peut livrer sur la restauration traditionnelle qui sont les restaurants, les traiteurs. Donc, on a accès, grâce à Maillon-Court, à d'autres clients aujourd'hui. En fait, il fallait donc emporter ces légumes dans tout le département, à raison de 2 fois par semaine pour chaque structure. Et on trouvait un peu dommage que les camions ne partent pas à plein. Et surtout, l'agriculture, c'est pas que les producteurs de légumes, c'est tout ce qu'on sait faire en Mayenne, c'est-à-dire l'excellente viande, des œufs, du lait, du fromage, enfin tout ce qu'on peut produire. On répond à entre 90 et 95% à la demande de la restauration. Donc l'idée, c'était de monter une plateforme logistique équitable, toujours le même enjeu, l'agriculture, faire travailler nos agriculteurs, leur permettre de livrer tout le département, parce que bien souvent les agriculteurs qui livraient dans un rayon de 10-15 km autour de chez eux. Aujourd'hui, ils ont accès à tout le département et les cuisines ont accès à la proposition de tout le département aussi au niveau de l'alimentation. C'est aussi un grand gain de temps pour les chefs de cuisine qui n'ont plus 10 camions à attendre devant leur porte, mais un seul, c'est Maillon-Court. C'est pour les agriculteurs 8 heures de moyenne par agriculteur sur les routes pour aller livrer. Aujourd'hui, ils peuvent se concentrer pour se développer, travailler et nous livrer des bons produits. On est vraiment dans un cercle vertueux qui arrange tout le monde, en fait. Ce qui est aussi formidable, c'est que l'agriculture s'adapte avec nous. Je pense au producteur de carottes qui est de Gré-en-Bouère. Il a commencé tout petit avec nous. Aujourd'hui, il sème pour nous 4 hectares de carottes pour nous. Les pommes de terre, c'est la même chose. D'avance, il sait qu'il va avoir 60-80 tonnes de vendus chez nous tous les ans. Donc on permet aux agriculteurs d'anticiper et de mettre en terre pour nous. Pour eux, c'est formidable. Les camions sont bridés au niveau de la quantité, on peut mettre que 800 kilos. Donc c'est au moins 3 fois 800 kilos, donc 2,4 tonnes qui partent tous les jours au moins. Et quand il y a trop de livraisons, on repart l'après-midi pour finir les livraisons les plus proches.
Ce qui est un petit peu moins le cas en cette période de vacances scolaires. Demain, on s'intéressera au projet d'insertion professionnelle des salariés de la légumerie 53. Ce sera le dernier épisode de cette série autour de la légumerie 53, donc à Laval. Je vous rappelle qu'il y a toujours un jeu concours sur notre page Facebook L'Autre Radio pour gagner vos places pour le concert du chœur In Paradisum. Ce sera à Château-Gontier dimanche, église de la Trinité à 17h. Et vous avez jusqu'à demain pour y participer. Il y a une petite question très rapide à laquelle répondre, il suffit franchement de... Vraiment, la question est simple. C'est histoire de vous titiller un petit peu votre curiosité pour gagner donc vos places pour ce concours. Pour ce concours qui vous permettra de voir ce concert intitulé Écho d'aujourd'hui, puisque c'est un concert de sortie d'album. C'est donc l'album qui vient de sortir de ce chœur In Paradisum. C'est la fin de notre émission L'Agité du local. À suivre à l'antenne à 19h, il y aura le Grand V, suivi à 21h de Transistor, avec une rencontre ce soir avec la céramiste Anne Cor, basée à Saint-Martin-de-Connée. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon après-midi et je vous dis à demain.